Ben, il m'a semblé que, pour différentes raisons, oui, il était important de s'exprimer, en particulier parce que la question de la fin de vie a été posée de manière particulièrement aiguë en France ces dernières semaines, et puis aussi parce que la présidence française de l'Union européenne va commencer au 1er juillet. Et que nous n'aurons pas d'autre occasion avant de pouvoir exprimer quelques souhaits.
Alors à propos de l'euthanasie, vous dites que la société n'a pas vocation à organiser la mort, ni celle de l'enfant à naître, ni celle du grand malade en phase terminale, ni celle des vieillards en fin de vie.
Ce qui est un des fondements de la vie sociale, c'est précisément que la société est faite pour permettre aux individus de vivre et non pas de mourir. Et donc, ce n'est pas à la société d'organiser et de planifier la mort de ses membres, même si elle le fait de façon judiciaire. Car à ce moment-là, le pacte fondateur de la société risque de tourner au doute. Et le doute, c'est est-ce que cette société veut encore de moi ou va encore vouloir de moi? Et donc, c'est par rapport à cette perversion de la mission de la société que j'ai voulu éveiller l'attention en disant que ce n'est pas la mission d'une société de légiférer la mort.
Alors, vous avez tenu également à aborder la question de la présidence tournante de l'Union européenne que la France s'apprête à assumer le prochain semestre. Pourquoi?
Très probablement, la question de la politique européenne de l'immigration va être à l'ordre du jour au cours de ce semestre. C'est une question importante pour nous de savoir dans quelle direction la présidence française va essayer d'infléchir les débats et d'orienter les décisions. Et donc de rappeler un certain nombre de convictions qui ne sont pas exclusives, mais que nous partageons avec beaucoup d'autres. À savoir que la véritable solution à la réduction de l'immigration, c'est le développement dans les pays de départ, ce qui veut dire l'investissement financier correspondant et donc le poids fiscal correspondant. Et deuxièmement, le respect qui est dû aux personnes, même quand elles sont dans un statut non régulier. Et donc, on ne peut pas, sous prétexte que quelqu'un est en situation irrégulière, considérer qu'elle est déchue de ses droits personnels. Elle doit être traitée avec respect et dans des conditions conformes aux droits de l'homme.
Dernier volet, le malaise des prêtres, les prêtres dont la lourde tâche est rendue encore plus pénible par l'incertitude qui règne aujourd'hui et par le manque de vocation. Que proposez-vous pour leur venir en aide?
Il y a deux propositions précises que je fais dans mon discours. La première, c'est de développer et d'intensifier les moyens de discernement et de travail commun dans les diocèses entre l'évêque, les prêtres et les chrétiens. Affronter la situation des prêtres des paroisses françaises, ça suppose de l'affronter là où on est. Et deuxièmement, relancer une pratique de l'appel pour les vocations, et qui soit une pratique, là aussi, qui n'est pas seulement la pratique de l'évêque, mais qui est aussi la pratique des prêtres et des chrétiens.